Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu.
Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, je vous propose un petit voyage. Rendons-nous en esprit, si vous le voulez bien, sur le mont Tabor, là où Jésus a vécu cette transfiguration. D'abord, l'Évangile nous dit que c'est sur la montagne. Jésus monte sur une haute montagne pour prier. Et cette montagne n'est pas sans rappeler le mont Sinaï, où Moïse est monté également pour prier. Il y a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et au terme de ce jeûne et de cette prière, le Seigneur lui apparaît. Il vit une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu qui lui donne les lois, les tables de la loi. Cette montagne peut aussi nous faire penser au mont Horeb. Et c'est cette fois le prophète Élie qui a marché lui aussi pendant 40 jours et 40 nuits sans manger et qui est monté sur ce mont Horeb. Et il a également été gratifié d'une théophanie. Dieu s'est manifesté à lui dans le silence d'une brise légère. Et Jésus monte sur ce mont, sur cette montagne, et on peut tout à fait, voyez, penser qu'il va se passer quelque chose à ce stade. Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, pas les 12 apôtres, encore moins toutes les foules. Pierre, Jacques et Jean, des témoins privilégiés. Dans l'Évangile, c'est Pierre, Jacques et Jean qu'il choisit pour être les témoins particuliers, privilégiés, d'une résurrection quand il ressuscite la fille de Jaïr qui était morte. C'est aussi Pierre, Jacques et Jean qui l'emmènent d'une manière spécifique au jardin de Gethsémani. Alors il y va avec tous ses disciples, mais il laisse le groupe à un endroit. Il prend Pierre, Jacques et Jean et il va plus loin. Et ils seront témoins d'une manière particulière de son agonie. Alors Pierre, Jacques et Jean sont emmenés par Jésus sur cette montagne et ils vont être les témoins privilégiés cette fois de sa gloire divine. Que se passe-t-il ? Une théophanie, une manifestation de Dieu, une théophanie trinitaire. On entend la voix du Père, le Fils est là, présent, et l'Esprit-Saint est symbolisé, représenté par cette nuée lumineuse qui entoure Jésus et les disciples. Donc c'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint qui sont manifestés, qui sont révélés d'une certaine manière dans cet épisode, même si c'est surtout Jésus qu'on voit, et c'est le Père qu'on entend. Jésus est transfiguré. Son aspect devient autre. On pourrait presque dire qu'au fond, il y a comme une interruption d'un miracle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, Jésus est Dieu et Fils de Dieu. Il est de condition divine. Et donc Dieu rayonne de gloire, de puissance, de majesté. Lui qui est éternel, tout-puissant, absolu, lui qui est amour et infini, lui qui est parfait. Dieu se fait homme en Jésus. Et quand les hommes voient Jésus, quand ils le voient dans la crèche, quand ils le voient, quand ils marchent avec lui, ils ne voient pas, vous voyez, ce poids de gloire, de lumière, de divinité que nous pourrions voir quand nous serons au ciel. Donc il y a comme, je dis entre guillemets bien sûr, vous voyez, comme un miracle qui fait que cette divinité, cette gloire de Dieu est comme voilée en Jésus, même si elle apparaît quand il fait des miracles, même si elle apparaît quand il accomplit des guérisons. Ici, d'une certaine manière, ce voile est dévoilé. Et les apôtres voient Jésus comme nous le verrons tous dans la gloire. Ça, c'est ce qu'ils voient. Et puis, ils entendent quelque chose. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Cette même voix qui a retenti sur les bords des rives du Jourdain, quand Jésus a été baptisé, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Ça devait être assez impressionnant, je pense, d'entendre cette voix. Même si je ne pense pas que les apôtres aient eu peur. Ils n'ont pas compris, certainement. Ils étaient accablés de sommeil. Ils ont dû avoir une certaine crainte. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Mais voyez, cette voix qui devait être une voix puissante et paisible à la fois, la voix même du Dieu le Père, qui dit « Celui-ci, Jésus, votre Maître, est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Si Dieu le Père parle, et s'il nous dit d'écouter son Fils, c'est bien une preuve que Dieu parle. Et si Dieu parle, il nous faut l'écouter, il nous demande de l'écouter. Dieu parle de tout temps, par la création, par les événements, par l'histoire. Il parle par les prophètes, à qui, par son Esprit Saint, il inspire des paroles pour le peuple, pour les hommes. Il parle en ces temps qui sont les derniers, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par le Fils, celui qu'il a établi au-dessus des anges, celui qui est la parole même de Dieu, la parole faite chair. Si Dieu parle, il nous faut l'écouter. Vous savez, je pense qu'on en fait tous l'expérience, c'est pas très difficile de beaucoup parler pour ne rien dire. Ici, Dieu parle peu, mais il dit beaucoup. Il dit « écoutez-le ». Si Dieu parle, alors je peux comprendre que Dieu me parle. Dieu te parle. Dieu parle à chacun d'entre nous. Est-ce que vous l'écoutez ? Est-ce que nous écoutons tous les jours ce que Dieu veut nous dire ? Tous les jours, Dieu a des choses à nous dire. Et ce que Dieu nous dit, ce sont des mots d'amour. Ce que Dieu nous dit, c'est « tu as du prix à mes yeux et je t'aime, toi, personnellement ». Dieu le Père nous parle de Jésus son Fils, voyez, il rend témoignage à son Fils, mais Jésus aussi nous parle de son Père. Il rend témoignage à son Père sans cesse dans l'Évangile. Il dit « celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père est en moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Et comme Dieu est amour, Jésus nous manifeste au plus haut point l'amour de Dieu, le Père, pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Ça, c'est un petit verset de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qu'on pourrait tous apprendre par cœur, qu'on pourrait noter au-dessus de nos lits, qu'on pourrait noter, afficher dans notre cuisine, dans notre salle de bain, devant notre poste de travail. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils unique, non pas pour que le monde soit jugé, non pas pour nous gronder, pour nous condamner, mais pour nous sauver. On ne peut pas se sauver soi-même. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Voilà ce que Dieu nous dit. Jésus est la parole qui sort de la bouche du Père. Et cette parole nous dit, Dieu vous aime. Et je suis prêt à mourir sur la croix pour vous montrer cet amour. Cet épisode de la transfiguration intervient alors que quelques jours avant, dans l'Évangile, Jésus a posé la question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je ?» Et Saint-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Messie de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Mais tout de suite après, Jésus annonce pour la première fois sa passion. « Voici que le Fils de l'homme se dirige vers Jérusalem, et il faut qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres, qu'il soit mis à mort, et que le troisième jour il ressuscite. » Les apôtres n'ont pas compris. Ensuite, il y a cet épisode de la Transfiguration, et un peu après, il y aura une deuxième, puis une troisième annonce de la Passion. Pourquoi Jean, Pierre et Jacques sont invités par Jésus à voir Jésus transfiguré dans sa gloire divine, eux qui vont le voir dans son humanité souffrante à Gethsémani et sur la croix? Jésus les encourage. Jésus leur dit, voilà, je vais aller à Jérusalem pour prouver l'amour que j'ai pour les hommes, l'amour que mon Père a pour les hommes, je vais donner ma vie, je vais souffrir ma passion, je vais mourir sur une croix. Mais regardez bien qui je suis. Je suis Dieu trois fois saint. Je suis Dieu dans toute la divinité. Voilà ma gloire, voilà le voile qui s'enlève et voilà la divinité, la gloire, la lumière, le resplendissement qui jaillissent de mon être. Comme pour les encourager, attention, bien sûr, on va aller vers la passion, mais il y aura la résurrection. Voilà ce que vous êtes invités à vivre, vous aussi, avec moi, à ma suite. Alors pourquoi nous avons ce texte lors du deuxième dimanche de carême? Peut-être pour vivre d'une certaine manière cette même expérience que les apôtres. Nous cheminons dans ce carême avec Jésus pas à pas et, soyons quand même clairs, nous nous acheminons pas à pas vers la Passion, vers la Semaine Sainte, et c'est cela que nous allons célébrer. Nous allons suivre le Christ dans sa souffrance, dans sa passion et dans son tombeau, pour ressusciter avec lui et en lui. Et cet évangile nous est donné ici pour nous dire, attention, on ne va pas s'arrêter au tombeau vide, au tombeau plein, on ne va pas s'arrêter à la mort sur la croix et aux souffrances de la passion, il y aura le tombeau vide. Contemplez un peu ma gloire afin de prendre courage sur ce chemin vers Jérusalem. Dieu le Père nous dit, écoutez-le, écoutez mon Fils. Comment l'écouter? Chacun peut se poser cette question. Comment est-ce que dans ce temps de carême, je prends le temps d'écouter Jésus? Puisqu'il a des choses à me dire. Si Dieu a des choses à me dire, ce serait quand même bête de passer à côté parce que j'ai les oreilles avec des écouteurs, parce que j'ai des écrans allumés, parce que j'ai mille choses à faire et parfois même importantes, alors que je ne prends pas ne serait-ce qu'un petit temps de prière pour écouter sa parole. Pourquoi l'écouter? Parce que son message est plus important que tout ce que je peux faire et dire dans ma journée. Ça ne veut pas dire que ce que je fais, ce que je dis n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est cheminer avec le Christ, c'est désirer recevoir sa vie, c'est désirer la résurrection, c'est écouter sa parole, accueillir sa volonté. Alors qu'est-ce que Dieu veut dire au monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut dire au monde en souffrance? Qu'est-ce que Dieu veut dire aux malades? Qu'est-ce que Dieu veut dire aux plus pauvres, aux plus démunis? Que veut-il dire aux victimes de la guerre et de la haine? Que veut-il dire aux grands pécheurs, ceux dont saint Paul disait « Ils sont des ennemis de la croix du Christ ». Qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi, ici et maintenant? Je pense que ce ne serait pas autre chose de ce qu'il a déjà dit dans l'Évangile, notamment, par exemple, à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. Jésus, à Sainte Marguerite Marie, quand il lui apparaît à Parelmonial, lui dit « Mon divin cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Il nous dit ça à chacun d'entre nous aujourd'hui. « Mon divin cœur est passionné d'amour pour toi, maintenant. » Il ne peut plus contenir les flammes de son amour, il a besoin de les déverser. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et pour reconnaissance qui ne reçoit qu'ingratitude, combien nous sommes ingrats envers l'amour de Dieu. Lui qui a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais demeure et obtienne la vie éternelle. Aimons le Christ, écoutons-le, prions-le, unissons-nous à lui, frères et sœurs, tous les jours de ce temps de carême, pour vivre intensément cette fête de Pâques avec nos frères et sœurs catéchumènes qui vont être plongés dans la mort du Christ. Ils vont entrer au tombeau avec lui et nous aussi. Mais pour en ressortir, voyez, pour ressortir la tête de l'eau et respirer, c'est-à-dire recevoir le souffle de l'Esprit qui va leur donner la vie par le baptême. Jésus dit aussi à Marguerite Marie, « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. » Une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Tous les jours dans la paroisse, il y a l'adoration de l'Eucharistie. Frères et sœurs, venons combler cette soif du cœur de Jésus, cette soif d'être aimé et adoré dans son Saint-Sacrement. Et puis, comment ne pas dire un petit mot également de cette soif de Jésus de nous donner son pardon. Le carême est un temps privilégié pour cela, même si c'est bien de le faire, vous voyez, tous les mois de l'année, pas juste pendant le carême. L'Église nous invite à nous confesser tous les mois, minimum. Ça peut être un peu plus, mais en tout cas pendant le carême, d'une manière particulière, parce qu'on se laisse réconcilier avec Dieu, qui n'est pas venu pour nous juger ni nous condamner, mais pour nous sauver. Dans cet épisode de la Transfiguration, écoutons à nouveau cette voix du Père qui nous dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ».